au 99.1 88.9 CFNJ. C'est La Naudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
L'édition de ce 20 octobre. Écoutez, je remplace aujourd'hui mon collègue qui est grippé, Claude Fournel, à qui je souhaite un prompt rétablissement et du repos, c'est important. On parlera à Pierre Paquette, évidemment, du sondage référendaire. Ce serait intéressant d'avoir son impression. Nicolas Frémery, directeur général de la CDIJ, Corporation de développement économique de la MRC Joliette. Cassandra Martel sera également avec nous du Conseil régional d'environnement de la Naudière. Jean-François Champoux, le directeur général de la Série Saint-Michel. Jesse Rouleau, président du syndicat des services de garde de CSN La Naudière. Patrice Morneau, vice-président de la FIC. Voilà le menu pour aujourd'hui, mesdames, messieurs.
La Naudière PM. Communication.
Eh bien, c'est ce mercredi que se tiendra le déjeuner conférence d'ouverture de la saison des matinées lanaudoises, l'édition 2025-2026. Et pour cette première, l'événement aura lieu au Centre culturel des Jardins. Ils vont accueillir ces gens-là, la conférencière Isabelle Fontaine. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Nicolas Frémery un peu plus tôt ce mois-ci, directeur général de la corporation qui pilote les matinées lanaudoises. C'est vous qui présentez essentiellement les matinées lanaudoises. Comment on se renouvelle?
On se renouvelle grâce à nos participants. À chaque fin de saison, nous, on tient un groupe de discussion avec des participants des matinées, avec nos partenaires. Et là, c'est vraiment un échange sur quels sont, selon eux, les enjeux, les thèmes sur lesquels ils souhaiteraient qu'on trouve des idées de conférenciers, etc. Et c'est à partir de cette rencontre-là que nous, après ça, on commence à bâtir la saison des matinées lanaudoises.
Pour une équipe en ressources humaines, c'est important ces conférences, ces déjeuners-conférences?
Ben, écoutez, oui, parce que depuis 22 ans, nous-mêmes, on se pose la question, parce qu'à chaque année, bien entendu, après 22 ans, vous le disiez, là, l'enjeu, c'est d'être capable de se renouveler. Et en fait, ce que nous disent les participants, c'est que c'est rare les moments où ils peuvent prendre des temps d'arrêt dans le cadre de leur fonction. Fait que les matinées leur offrent l'opportunité de prendre un temps d'arrêt. Il y en a qui viennent avec leur équipe de travail. C'est des conférences sur des sujets d'actualité, fait que ça leur permet aussi là, de leur ouvrir les yeux sur des thématiques avec lesquelles ils vivent des enjeux. Fait que je vous dirais que oui, c'est important pour eux de venir. Et les taux de participation, le congrès se fait à guichet fermé à chaque année, le démontre. Puis je vous dirais que la grosse majorité des gens qui viennent sont soit des professionnels des RH, soit des gestionnaires d'entreprises, et on a même des propriétaires d'entreprises qui viennent.
Vous avez donné des chiffres intéressants tantôt, j'aimerais que vous nous les rappeliez.
Ben, on a à peu près... Alors, si vous souhaitez venir à l'ensemble des activités des matinées lanaudoises, pour 5 déjeuners-conférences incluant le congrès, il vous en coûte $585. C'est à peu près le prix actuellement qu'on a dans d'autres milieux pour accéder à une journée de conférence. Fait que c'est vraiment des prix qui sont et se veulent accessibles pour maximiser le fait que les entreprises puissent venir. Un déjeuner-conférence, c'est $55. L'ensemble des informations se trouve sur notre site web, cdej.ca, dans la section matinée lanaudoise.
Mais en termes de participation, vous avez mentionné des chiffres au niveau du nombre d'entreprises et nombre de participants.
On a en moyenne, je vous dirais que les sujets qui vont être plus techniques, on atteint à peu près une centaine de participants. Quand on a des conférenciers comme Isabelle Fontaine, Dany Dubé, que j'ai annoncé tantôt, Isabelle Fontaine va être d'ailleurs notre première conférencière au mois d'octobre, on peut monter jusqu'à 175-200 personnes. Fait que ça, c'est à peu près l'assistance moyenne que nous avons lors de nos déjeuners, qui sont aussi une opportunité de réseautage. Et lorsque l'on fait le congrès au mois de mai, c'est à guichet fermé, c'est 175 participants. Ce qui fait que bon an, mal an, dépendamment du nombre de conférences que l'on fait dans l'année, on peut aller chercher entre 800 et 1000 participants qui viennent principalement du nord de la Naudière.
Pour un nombre de combien d'entreprises?
On a à peu près, bon an, mal an, 170 à 200 entreprises qui viennent aux matinées lanaudoises suivre un ou plusieurs événements durant l'année.
Le premier déjeuner-conférence aura lieu au Centre culturel des Jardins. Les autres?
Les autres vont avoir lieu, comme les années précédentes, au club de golf de Joliette. Premier événement qui va avoir lieu le 22 octobre, Centre culturel des Jardins, Isabelle Fontaine, qui va nous parler de leadership courageux et imputabilité.
Que la fermerie, merci.
Merci à vous.
Mais cette conférence-là traite du genre de courage qui mobilise sans écraser, qui élève sans épuiser, et elle s'adresse aux leaders soucieux de conjuguer performance et présence, exigence et bienveillance, et résultats et humanité. Voilà qui est intéressant. C'est mercredi matin et ça commence à 7h30.
Lanaudière PM, environnement.
Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière sensibilise les candidats aux élections du 2 novembre sur les enjeux climatiques. Ça, c'est intéressant. Le Conseil va rencontrer les différentes personnes qui se présentent dans différentes municipalités, les candidats politiciens, et tentera de sensibiliser ces gens-là pour l'importance de bâtir des communautés durables dans Lanaudière. Et Pierre Jubainville en a parlé avec Cassandra Martel, la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière.
Alors, Cassandra Martel, vous lancez une invitation aux candidats aux élections du 2 novembre.
Oui, on leur lance une invitation, mais on la lance aussi à tous ceux qui ont été élus par acclamation, dont toutes les personnes qui ont déjà leur siège confirmé. En fait, on veut s'assurer que l'environnement soit au cœur des discussions et des 4 prochaines années. On s'entend qu'on a un objectif avec le plan nature qui est 2030. 2030, c'est demain matin. Mm-hmm. Donc, c'est le mandat qui commence le 2 novembre, qui est le mandat de ce 4 ans-là. Là.
Quels sont les principaux problèmes que vous décelez dans la Lanaudière?
Et en fait, la liste des problèmes est quand même assez impressionnante, mais les enjeux sont assez cruciaux au niveau de ce qu'on parle de résilience climatique. On se rappellera qu'il y a 2 ans, on a vécu débit avec ces montées d'eau un peu partout dans nos sous-sols. Donc, on n'est plus à l'abri, en fait, de ces situations-là et nos municipalités vont devoir agir, en fait, pour être capables d'aider les citoyens à mieux préparer ces suites-là, tout en diminuant le plus possible l'impact.
Justement, la Lanaudière, comme ailleurs, est touchée de plein fouet par toutes sortes de changements climatiques. Il y a les inondations, mais il y a cette année
la sécheresse.
Alors, on a connu donc un été exceptionnellement chaud. Ça a quoi comme incidence?
En ce moment, on est en train de constater des étiolements, en fait, au niveau des cours d'eau. On a vraiment, on l'a vu, là, le fleuve n'a jamais été aussi bas, des bateaux qui sont même plus à cale en ce moment, tellement qu'il n'y a pas d'eau. Fait qu'on s'entend que la nappe phréatique aussi, donc celle dans laquelle on prend, on puise notre eau potable pour s'abreuver, elle est aussi en train de s'assécher. Donc, il faut vraiment être à l'affût de prendre nos précautions pour préserver la quantité d'eau le temps que les précipitations reviennent.
Peut-être.
On espère.
Oui, on se croise les doigts.
Mais regardez bien les tempêtes de neige qu'on va avoir.
Les municipalités sont-elles prêtes à faire face à ces défis?
Les municipalités sont de plus en plus prêtes. Il y a vraiment beaucoup de municipalités dans la Lanaudière qui ont pris le taureau par les cornes. Je m'en ai mêlé l'expression. Donc, ils ont pris le taureau par les cornes. Et oui, je pense qu'ils sont à l'affût. Ils l'ont vécu de plein fouet. Et ils sont très concernés parce que leurs citoyens vivent. Donc, tu sais, je prends l'exemple de Saint-Lin après débit. Là, je reviens souvent avec débit. Mais il y a encore, je pense que c'est 12 maisons qui n'ont pas, 12 familles, en fait, qui n'ont pas retrouvé un logement suite des inondations.
Tempête, ouais.
Oui, c'est ça, après la tempête. Fait que, tu sais, on est comme 2 ans plus tard, puis il y a encore des répercussions de tout ça. Donc, il n'y a pas une municipalité qui peut rester insensible face à ça. Fait qu'on est là. En fait, le CRE est là et d'autres organisations, on est là pour vraiment les accompagner, les aider à de passer de la réflexion ou du constat à l'action. Donc, des prendre où ils sont rendus pour essayer de
d'amener point. C'est quoi justement votre rôle comme organisme?
Dans le fond, nous, notre rôle est vraiment de conseiller, concerter et influencer. Donc, c'est d'essayer de trouver les meilleures pratiques possibles, d'aller chercher, en fait, des solutions qui sont très réaliste sur le terrain. Donc, on s'entend qu'on ne traitera pas, par exemple, Saint-Lin comme on va traiter Saint-Michel-des-Saints. C'est 2 réalités complètement différentes, même si on est dans la même région. Et on va accompagner beaucoup pour la rédaction de plans de résilience, par exemple, des politiques de protection de l'arbre. On peut aussi faire du verdissement, du dépavage. Donc, on peut vraiment accompagner pour des actions très, très spécifiques qui peuvent vraiment donner une grosse chance pour l'environnement.
Est-ce que vous êtes considéré comme un organisme communautaire ou à but non lucratif?
À but non lucratif.
OK. Alors, les municipalités devraient se doter d'outils, mais pour faire face à ce qui s'en vient et ce qu'on a vécu dans les dernières années, dans les 3 dernières années, en fait. Quels sont ces outils-là, justement, là, concrètement? Là?
Oui, bien, c'est sûr qu'il y a toute, comme je disais tantôt, toute la planification des plans. Donc, ça fait bizarre de parler de plans quand on est les deux mains dans l'action, mais c'est de vraiment bien planifier. Il arrive quoi, justement, si on est en sécheresse, une pénurie d'eau, si, par exemple, au contraire, là, on a de trop grandes précipitations puis on se ramasse avec le scénario débit? Donc, c'est vraiment le but, c'est d'essayer de mieux réfléchir aussi l'aménagement de la municipalité. Donc, les prochaines constructions, on les implante comment? Et donc, de vraiment bien les penser, essayer de penser à la densification. Bien entendu, on est un peu achalant avec ça, mais de reverdir et d'enlever du pavé, le béton, c'est l'ennemi numéro un en environnement. On parle d'îlots de chaleur, on va parler de rétention d'eau. Donc, si on est capable de justement prendre des décisions éclairées, et là, c'est vraiment là, comme ça, qu'on va pouvoir faire la différence sur le long terme. Là.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des candidats dans les diverses municipalités?
Oui, on est en...
Est-ce qu'on a fait appel à vous?
Oui, de plus en plus, en fait. C'est pour ça que nous, notre annonce de lettre ouverte a quand même tardé, parce qu'on est quand même en contact régulièrement avec les élus. Mm-hmm. On a quand même presque 76% en plus de nos élus dans la Nodière qui ont repassé par acclamation. Donc, c'est des gens avec qui on a quand même un rapport assez régulier. Et là, ben, dans le fond, là, on a des nouveaux candidats qui sont en train de poser des questions, comprendre aussi. On a eu vraiment des enjeux. Là. On parlait de terres contaminées par contre, dans le territoire de Mascouche, la gestion de l'eau sur d'autres territoires. Donc, on a des candidats qui se présentent, puis quand ils nous appellent en disant, OK, ben pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Puis nous, on est à partie. Donc, le but, c'est vraiment pas de dire, ben fais ci, fais ça ou présente ça. Non, c'est voici l'état de la situation et voici ce qui peut être fait comme solution.
Quels sont justement les engagements que les candidats devraient intégrer à leur plateforme?
D'une meilleure gestion des matières résiduelles, donc de comment on peut mieux sensibiliser autant notre citoyen, mais aussi nos institutions, commerce et industrie, donc les ICI qu'on appelle, donc les plus gros pollueurs, comment on peut encadrer ça au niveau des municipalités. Ça, c'est vraiment un engagement que nos municipalités, on espère qu'ils vont prendre parce que ça a des impacts majeurs sur nos gestions de sites d'enfouissement technique. Bien entendu, tout ce qui est résilience, donc comment on prépare la suite, comment on se prépare en fait à faire face à ces situations-là parce qu'elles sont là pour rester et on en a encore pour quelques années à les subir. Donc, comment on les subit en étant pas trop endommagés. Et bien entendu, tout ce qui est aussi la gestion de l'eau. J'ose espérer qu'un jour, on arrête de flusher notre eau potable dans la toilette.
C'est une très bonne idée.
Oui, sinon, en fait, c'est l'inverse de la bonne idée.
Non, c'est ça, d'arrêter de flusher, comme on dit. Écoutez, Cassandra Martel, je vous remercie beaucoup d'être venue.
Merci à vous.
À bientôt.
J'en parlais avec Jacques Plante hier. Écoutez, c'est beau sensibiliser les politiciens, mais c'est important, quand ils sont élus, de poser des gestes.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver les commerces de ta région, va sur notreentourage.ca et ajoute-le à tes favoris. C'est rapide, simple, 100% local. Regarde aussi ton répertoire reçu par la Poste.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Jersey, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Cudbert, Crabtree,
CFNJ, 89.1, 88.9.
Ici, la musique américaine est tellement taxée qu'on n'en joue pas. Au 89.1, 88.9, CFNJ, c'est la Naudière PM, avec Michel Arnois.
CFNJ, 89.1.
Lanaudière PM. Économie.
Eh bien, les tarifs excessifs de notre voisin du Sud, Donald Trump, à 45% obligent les décideurs de plusieurs entreprises du domaine de la forêt, la foresterie en fait, à prendre des décisions difficiles et la série à Saint-Michel-des-Saints, la série Saint-Michel, n'y fait pas exception. Jean-François Champoux, président-directeur général de la série Saint-Michel, vous avez fait parvenir un communiqué de presse comme quoi les activités sont perturbées du côté de la série Saint-Michel. Voulez-vous faire le point, s'il vous plaît?
Oui, mais tout dernièrement, là, dans les derniers jours, là, le fameux 232 qui avait été annoncé par le département du commerce des États-Unis d'Amérique pour la sécurité nationale a été appliquée. Ça a fait en sorte que les industriels canadiens sont tarifiés à la hauteur de 45% là, depuis le 14 octobre dernier. C'est que ça fait en sorte que nous, dans les conditions actuelles, on avait annoncé la suspension des activités pour l'usine de transformation du bois, l'usine de sciage là, en août dernier. Mais ça fait en sorte que les conditions sont encore pires qu'il est en août. Les marchés sont encore pires qu'il est en août. Fait que on a préféré maintenir les discussions qu'il y a actuellement avec le gouvernement fédéral parce que le fameux programme d'aide là qui est annoncé est pas
ça
encore.
Ça s'en vient, ça, cet argent-là, ça s'en vient.
C'est une question. Puis tu sais, je tiens à préciser là, souvent le monde dit ouais, mais regarde encore des subventions. Là. C'est pas de l'argent gratis qui arrive du fédéral. C'est tout le temps des prêts qui consentissent aux industriels pour les soutenir pendant ces crises-là.
Puis ça va être un prêt qu'ils
oui,
vont
c'est
faire.
Oui, c'est des prêts qu'ils font dans ce temps-là. C'est pas... tu sais, il y a pas beaucoup d'argent gratis qui existe là, dans nos gouvernements. Puis ça c'est de quoi que je tiens à la population. Fait, ils viennent vraiment aider les entreprises à passer des crises comme ça.
Donc le cash flow, comme le, entre guillemets. Là,
entre
oui.
guillemets, oui. Puis c'est bienvenu, sauf que... Le sentiment d'urgence qu'il y a dans l'industrie forestière au Québec actuellement pour au Canada. Mais la machine gouvernementale, elle vient pas à bout de s'adapter assez vite parce qu'il faut qu'elle crée les programmes, faut qu'elle les écrit, qu'elle mette les conditions. Fait que nous.
Mais ça aide pas vraiment, ça, un prêt, parce que vous devez le rembourser un jour.
Oui, mais c'est une condition d'équilibre. Fait que, il y a des années qui sont meilleures, il y en a d'autres qui sont moins. On vit là-dedans. On n'a pas de trouble avec ça.
Naviguer là-dedans sans
ça,
problème.
Là. Ces programmes-là, on est là. On est habitué à ça, c'est correct. On n'a pas le temps d'attendre un mois, deux mois, trois mois. Nos employés là sont en présentement en chômage. Puis on a le programme fédéral va probablement rentrer dans. Il est annoncé encore plus détaillé cette semaine par la ministre Joly.
Le chômage qu'ils ont, les employés, c'est quoi? Ça représente 60%, 80% de leur salaire ou ils vont réussir à avoir.
J'ai pas le calcul, mais tu sais, c'est le fameux calcul du chômage, là. C'est pas une situation favorable pour eux autres quand ils sont sous l'assurance emploi. Souvent, ils ont un chèque qui est quand même comparable à l'UNET, mais quand ils arrivent à la fin de l'année, ils ont l'impôt qui n'a pas été tout payé. Fait que tu sais, le chômage, c'est pas un mode de vie pour notre monde,
non.
Ni les autres.
Vous nous aviez dit, quand on s'est vu la dernière fois, que 40% du bois s'adressait au sciage puis aux États-Unis. Il y avait 60% qui était pour des utilisations plus domestiques puis à l'intérieur du Canada. Est-ce que... Bon, et là-dessus, la bonne nouvelle, s'il en est une, c'est que vous êtes en construction de votre séchoir au moment où on se parle, le séchoir qui avait passé, qui avait subi un incendie. Là, c'était en train d'être reconstruit, celui-là.
Exactement. On avait mis trois points majeurs en août pour redémarrer les opérations. On avait mentionné qu'il fallait reconstruire le séchoir. Ça, le conseil d'administration l'a voté, puis il est actuellement, les travaux sont débutés.
Puis pour monsieur, madame, tout le monde, ça sert à quoi le séchoir?
Bien, c'est dans le procédé. Si on a une première transformation du bois, c'est d'écarir le bois en brut vert, qu'on appelle. C'est la première étape. Après ça, on sèche le bois, puis après ça, on le plane pour l'emmener au marché de commodités, comme vous voyez, à quincaillerie. Là. Fait que ça devient un beau 2x4. Mais dans ce processus-là, il faut sécher le bois. Ça, c'était le premier point, puis on l'a eu. Après ça, il y avait le fameux projet de loi 97 avec tout l'enjeu là, qui était d'indiscussion.
La réforme. Là.
La réforme avec les Premières Nations, puis les discussions, puis les enjeux d'accès de territoire, puis tout ça. Puis dans les dernières semaines, mais les chefs de territoire par communauté de Manoine ont quand même fait des solides pas pour favoriser, exemple, leur démarrage chez nous. T'sais, on n'a pas une réforme forestière, mais on est capable de travailler dans les prochains mois.
Vous avez des bonnes ententes.
C'est des bonnes discussions. C'est des bonnes discussions qu'on a avec eux autres. Puis si la scierie de Saint-Michel ne redécolle pas un matin, c'est pas à cause de la communauté de Manoine.
Okay.
Elle ne redécolle pas un matin parce que l'aide fédérale n'est pas en place encore. Puis dès que l'aide fédérale va arriver, on va décoller. Parce que l'enjeu, là, c'est simple.
Et le séchoir sera opérationnel, probablement.
Il va être opérationnel au fait, le séchoir. Ça fait que ça, dans la séquence de démarrage, c'est bon. Puis qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est quand tu prends 45% de ton chiffre d'affaires, tu sais, nous, il y a 60% du bois qui va aux États-Unis.
Ah, c'est 60% aux États-Unis.
Puis quand vous parliez tantôt, là, c'est qu'il y a 45% du bois qui sert à faire du boîtillage, puis 55% du bois qui sert à faire des sous-produits pour d'autres usines. Puis ça, c'est bien important là, dans l'échiquier québécois parce que...
Un va pas sans l'autre.
Puis on en parlait ce matin, là, c'est un meeting avec d'autres collègues de l'industrie. C'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui, là, c'est que la chaîne, elle va débarquer. Parce que quand vous avez les séries de première transformation comme Série Saint-Michel, comme vous avez dans Laurentide, Groupe Crête, dans Mauricie, vous avez...
Partout,
vous avez Arbec. Mais quand que les premières transformations commencent à arrêter, mais vous pouvez avoir des impacts directs après ça sur la Kruger à Wayagamack. Puis automatiquement, par la bande, vous allez avoir des impacts à la Kruger à Gaptrie. C'est que c'est tout là, c'est toute la séquence forestière qui est importante. Fait que si le gouvernement fédéral vient pas soutenir l'industrie forestière au niveau de la première transformation, mais le matin que la chaîne va débarquer parce que il y aura plus de sous-produits pour les... Tu sais, actuellement, là, l'usine de Trois-Rivières là, est approvisionnée par l'Ontario puis Irving au Nouveau-Brunswick. C'est insensé qu'est-ce qui se passe dans l'industrie pour maintenir cette industrie-là debout dans les conditions de marché. Parce qu'il y a des années, là, il y en a eu des taxes, mais les prix étaient favorables. Tu sais, quand on compose 1,5 million de mises en chantier aux États-Unis, normalement, les prix sont suffisants pour compenser des taxes ou quoi que ce soit. Le problème qu'il y a actuellement sur le marché, c'est que la taxe américaine est là à hauteur de 45%, puis il n'y a pas de conditions de marché. La confiance des Américains est détruite.
Elle vient effacer la faible valeur du dollar.
Puis ça vient tout défavoriser notre position. Fait que, tu sais, c'est une crise qui va durer des mois, je pense pas en année, parce qu'en année, il n'y aurait plus d'industrie rendue là. Puis c'est pas ça qu'il faut qu'il y aille, mais l'important, c'est ça nous prend un premier ministre au Québec qui s'adresse au premier ministre Carney en disant « Notre industrie est importante, faut la soutenir, faut mettre ça en priorité dans les négociations avec les États-Unis, parce que nous autres, notre crainte, c'est toujours la même. Dans tous les conflits du bois ou des conflits commerciaux entre le Canada et les États-Unis qu'il y a eu, c'est l'acier puis l'aluminium t'a favorisé, puis le bois passait en dernier, puis il s'arrangeait. Mmh. Puis ça, faut vraiment pas aller là. Faut que le premier ministre Carney puis le ministre Leblanc mettent en priorité le règlement du conflit du bois d'œuvre. C'est un conflit qui est là depuis 2017.
Avez-vous des discussions avec ces gens-là?
On parle souvent plus avec les attachés québécois de ces ministres-là, mais on a quand même des bonnes... Tu sais, on a de la bonne communication avec
eux. L'entrée est là.
L'entrée est là, les discussions sont là. Sauf que, tu sais, nous, au niveau provincial, que ce qu'on s'attend, c'est de voir un premier ministre qui va appuyer les régions puis qui va dire, notre industrie, on veut qu'elle soit là, puis de faire des actions concrètes puis immédiates sur le gouvernement fédéral pour s'assurer que le règlement du conflit du bois d'œuvre se fasse au plus vite. Puis, s'il n'y aurait pas le conflit du bois d'œuvre actuellement, on naviguerait dans des sphères de prix favorables à 1,3, 1,4 million de mises en chantier.
Moi, j'aimerais revenir à vos employés. Peut-être des chances que vous allez en perdre quelques-uns là en cours de route, parce que les employés, des fois, ils se trouvent un autre emploi, un nouvel emploi. Vous n'avez pas peur de ça?
On a tout le temps peur, c'est tout le temps un risque, puis tu sais, il y en a déjà qui ont quitté. Tu sais, c'est quand qu'il y a des employés qui ont du chômage comme ça à Saint-Michel-des-Saints, tu sais, nous, on est un peu isolés du reste de la Naudière. Fait que quand qu'on les paye, c'est parce qu'ils quittent Saint-Michel-des-Saints. Tu sais, ils s'en vont Saint-Félix, ils descendent à Joliette, viennent chercher un job, puis souvent, on les roue plus, tu sais, dans nos régions. Absolument. Puis pour nous, c'est de la dévitalisation, puis ça, c'est dur. On a, dans les dernières semaines, démarré une nouvelle usine avec l'usine de granules de bois pour l'Italie. On est venu à bout de rembaucher 40 personnes, des nouveaux emplois. Fait que, tu sais, quand les deux usines vont marcher ensemble, ça va être plus de 190 emplois directs dans le village qu'il va y avoir au lieu de les 150 directs qu'il y avait dans les usines. Puis cette usine-là, mais elle venait à bout d'en combler une quarantaine. C'est que ça, on était super contents de ça. Puis après ça, dans nos employés, on en a des plus âgés ou des plus jeunes, mais je vous dirais là, que pour nos plus âgés, tant qu'ils ne débarqueront pas du temps raisonnable du chômage, au mois de janvier, ils vont être là, ces gens-là. Puis,
qu'on peut souhaiter. Là.
C'est ce qu'on souhaite. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usine, comparativement à l'usine qu'on avait en 2014, est rendue tellement technologique que ça prend plus 70 personnes par chiffre pour faire marcher l'usine. C'est rendu que c'est beaucoup moins de gens. Fait que notre base d'employés pour redémarrer l'usine dans les prochaines semaines, dans les sondages qu'on a, on n'a pas l'inquiétude. Sauf que, quand on va arriver pour démarrer la haute vitesse de l'usine, mettons la deuxième, la troisième faction, là, ça va peut-être être plus difficile, mais regardez, on a pris l'usine en 2014, ça faisait 2 ans qu'elle était fermée, puis on a rentré plus de 500 employés depuis ce temps-là avec les centres de formation et tout ça. Fait qu'on a l'agilité de le faire, puis on va être capable.
Jean-François Champoux, on se souhaite quoi?
On souhaite un gouvernement fédéral qui fasse sa job.
Merci.
Bonne journée.
Il y a Pierre Jumainville qui s'installe avec son bulletin d'information mammouth. On l'aura dans quelques instants. Restez là.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Eh bien, la 640 dans les deux directions, c'est assez, vous êtes assez nombreux entre la montée du Mai et la jonction pour la 40. Du côté de la 25 Nord, à l'angle de la 440, là, il y a une petite congestion. Vous allez ralentir beaucoup. Pont-le-Gardeur pour aller du côté de Repentigny. Soit par Sherbrooke ou Notre-Dame, vous allez être au vert. Alors ça, c'est toujours une bonne solution, finalement. Peut-être que c'est un peu plus long, c'est moins rapide que l'autoroute, mais au moins, c'est pas bloqué. Métropolitaine Est pour le pont Charles de Gaulle. Eh bien, vous allez commencer à ralentir maintenant à Bourget. Et vous êtes nombreux à traverser le pont Charles de Gaulle. Alors voilà pour cette circulation. Vous êtes toujours dans l'Anaudière PM en direct du studio de Joliette Nissan.
T'aurais pas une idée pour que je me fasse connaître sans me ruiner? Les gens veulent acheter local, mais s'ils me trouvent pas, ça sert à rien.
Tu te rappelles du Petit Bottin? Il est maintenant modernisé. En plus d'être distribué par La Poste, ils ont un site web bien référencé. Va sur notreentourage.ca. Inscris-toi.
Retraite Québec présente Le brin de sagesse de Leïla.
Avec les enfants, l'hypothèque et toutes nos dépenses, je vivais pas mal au jour le jour et j'avais arrêté de mettre de l'argent de côté. Mais là, j'ai décidé de recommencer. J'ai trouvé un outil pas mal pratique, Simulaire. Ça m'a aidé à calculer combien je devais épargner pour ma retraite. Avoir un objectif, ça aide vraiment.
Pour récolter assez de blé à la retraite, il faut planifier et poser les bons gestes. Visitez notre site web pour essayer Simulaire. Un message de Retraite Québec.
Chaque hiver, des familles réalisent que leurs parents n'est plus en sécurité à la maison. Au Manoir La Tourelle, nous offrons des studios chaleureux avec repas et entretien ménager inclus. Visitez manoirlatourelle.com pour un milieu de vie chaleureux et sécuritaire.
La Chambre de commerce du Grand Joliette et Service Québec Lanaudière t'invite à propulser ta carrière à la Journée de l'emploi le 6 novembre prochain au Club de golf de Joliette de 10h à 18h. C'est l'occasion idéale de rencontrer des employeurs locaux, explorer la formation continue et découvrir de nouvelles perspectives alors que plus de 500 postes attendent. Pratique ta poignée de main, apporte ton CV et ta bonne humeur et viens à la rencontre de grandes entreprises de la région. Pour plus d'informations, rendez-vous sur emploijoliette.com. Cet événement est présenté grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
Vendre ou acheter une propriété vous fait peur?
Ah ben, c'est simple. Contactez-moi.
Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel.
Et commercial.
Royal Lepage Partenaire, agence immobilière.
Bon lundi, Pierre Jubinville.
Bon lundi, Michel.
Écoutez, c'est votre bulletin que je qualifiais de mammouth et
pas
non
moi.
Pas vous.
Non, c'est
non.
Gentil non. De préciser.
Oui, un gars ne veut pas se tromper.
C'est mieux pour vous.
Oui, voilà. Voilà. Écoutez, début aujourd'hui de la dernière phase du recours aux agences privées d'infirmières.
Juste avant, Michel...
Ah oui, une dernière heure, oui.
Que la députée de Québec solidaire, Manon Massé, ne sera pas candidate à la prochaine élection. Faut rappeler que Manon Massé a subi quand même 3 interventions cardiaques en moins d'un an l'an dernier. Et elle a été donc députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pendant 12 ans.
Oui, toi, tout près de 15 ans, mm-hmm. C'est ça.
Donc, oui, les centres hospitaliers de 5 régions du Québec, dont la Naudière, doivent mettre fin dès aujourd'hui au recours aux agences privées de placement de personnel. C'est quand même une grosse économie pour le gouvernement. Jusqu'à maintenant, 700 millions de dollars et on prévoit un autre 50 millions supplémentaires. Jusqu'ici, le nombre moyen d'heures confiées chaque mois à la main-d'œuvre indépendante est passé de 820 000 à 365 000. Il y a 5 500 employés des agences qui ont été recrutés par le réseau. Alors, la FIC craint quand même une surcharge de travail pour les infirmières. Patrice Morneau, qui est vice-président du syndicat dans la Naudière, nous explique pourquoi.
Nous, avec le PDG qui a donné aussi des coupures au niveau du site de la Naudière, mais ça fait qu'on voit beaucoup de non-remplacements. Fait que sur une unité, je donne un exemple, s'ils sont supposés d'être 10 infirmières, bien, s'il y en a 2 de malades, bien, ils ne les remplacent pas. Ce qui crée une surcharge de travail pour les employés qui sont en place, parce qu'au lieu, mettons, d'avoir 15 patients chaque, ils vont se ramasser à 18 ou 20 patients chaque.
C'est l'impasse totale dans les négociations entre le gouvernement et les fédérations de médecins. Ça s'arrange pas de ce côté-là.
Non, on se chicane sur la place publique. C'est le président de la Fédération des médecins spécialistes, Vincent Oliva, qui réfute les chiffres qu'avance la ministre de la Santé sur la hausse de rémunération des médecins. Vendredi, le ministre n'a pas fermé la porte à l'imposition d'une loi spéciale et le docteur Oliva affirme que ces fameux chiffres du ministre Dubé ne sont pas les bons.
Je voudrais corriger, c'est la vérité alternative que les médecins spécialistes demandent 30% d'augmentation. J'ai pas l'habitude de m'étendre sur ces questions-là puis négocier sur la place publique, mais il le sait très bien parce que ça a été déposé à la table de négociation. On a toujours dit qu'on voulait un traitement équitable par rapport aux autres travailleurs, par rapport au secteur public, par rapport aux autres provinces canadiennes. C'est aux alentours de 17%. On est loin du 30%.
Les contrôleurs routiers pourraient très bientôt revenir sur les routes, mais avec des armes.
Oui, c'est ce que le gouvernement Legault serait sur le point d'autoriser. Probablement cette semaine, le président de la Fraternité des constables du contrôle routier, Jean-Claude Daigneault, souligne qu'il y aura des étapes, dont celle évidemment de la formation, mais pas seulement. Les 300 contrôleurs sont confinés actuellement au poste de contrôle depuis le printemps dernier.
D'acheter des armes à feu, si le gouvernement y voit un appel d'offres, je vous laisse deviner combien d'années que ça peut prendre, tu sais. J'imagine qu'on va tout apprendre ça bientôt, mais là, au moment qu'on se parle, ça risque d'être une bonne étape.
Une majorité de Québécois ne veulent pas de référendum.
Non, c'est un sondage léger, Journal de Montréal, qui indique que 59 % des répondants n'en souhaitent pas d'ici 2030, contre 28 % qui en veulent. Un référendum, cet automne, aurait donné 65 % des appuis au camp du non, contre seulement 35 % pour le oui. Le président de la firme de sondage Léger, Jean-Marc Léger, souligne d'autres données peu favorables.
Il y a vraiment des difficultés, là, parce que quand on leur demande « est-ce qu'elle est souhaitable? » 31% disent oui. Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce que le Québec a les moyens financiers? 28% disent oui. Puis pensez-vous que la souveraineté va se faire? 29% disent oui. Vous voyez, c'est ce que je mesure. Le souhaitable, le faisable, le probable. Je suis toujours autour de 28-30%. Puis aujourd'hui, il y a quand même 35% qui voteraient oui. Fait que ça fait pas un mouvement souverainiste fort, là.
Ce sera d'ailleurs le sujet de conversation avec Pierre Paquette d'environ 15 minutes. Je vous ai vu arriver en scooter aujourd'hui à Pierre-Jubainville. Oui. Et je me suis dit peut-être que vous avez été faire un tour au Louvre parce qu'ils se sont sauvés en scooter,
oui,
ces gens-là.
Un petit peu audacieux leur vol, ou même rocambolesque.
C'est assez extraordinaire,
ouais,
cette histoire.
Écoute, ils ont mis la main sur 1300 diamants, 56 émeraudes, 24 saphirs, mais où écouleront-ils leur stock? Ça reste à voir.
Vous êtes convaincu, on en parlait à micro fermé, vous êtes convaincu que ça sera fondu ou du moins...
Ça sera sûrement pas sur Marketplace.
Ça doit être dur à vendre. Tu vas pas dans un... Je sais pas le mot en français, dans des pawn shops, là, tu vas pas te promener.
Pas vraiment.
Une petite couronne à vendre.
Ouais, quelques petites couronnes. Ils en ont même échappé.
Oui, une qui s'est faite cabosser.
La couronne de l'impératrice Eugénie.
Ah oui, oui. Une de vos connaissances. Sans doute.
Non. Bien sûr.
Non, mais ils ont laissé comme ça des traces un peu partout sur le trajet.
Ouais, un casque de construction, évidemment, leur échelle pour monter au deuxième.
En fait, c'est un chariot élévateur.
Oui, ouais, c'est ça. Alors, en plein jour.
Non, mais quel culot.
C'est toute une histoire.
Oui, absolument.
On peut juste entendre là, la porte-parole du syndicat police, Axel Ronde, qui indique que leur itinéraire est actuellement retracé avec les images de caméras et que les malfaiteurs ont laissé beaucoup de traces derrière eux.
Ils ont perdu beaucoup de choses dans leur fuite. Ils ont perdu, par exemple, un casque de chantier. Ils ont perdu un des bijoux. Donc, ils ont laissé beaucoup de traces, si vous voulez, d'ADN. Et la police scientifique et technique a fait beaucoup de relevés. Et on espère, si vous voulez, retrouver de l'ADN.
Alors, voilà.
Bonne soirée.
Merci. C'est ce qui complète?
Oui.
Et on peut avoir d'autres nouvelles où?
Ah, sur cfnj.net. J'oubliais.
Alors voilà.
Quand on roule dans un milieu de vie, il y a du monde à pied, en auto, en vélo, en camion. Bref, c'est important d'adapter sa conduite.
Effectivement, Madame Levac. C'est pourquoi je ralentis, je reste attentive et j'évite les distractions telles que le téléphone cellulaire ou l'écran tactile de mon véhicule.
Wow, réponse parfaite. Avec un Madame Levac en plus, coudon, avez-vous des défauts, vous?
Il m'arrive d'oublier les noms, Madame Lévesque.
Ah, pas grave. Vous protégez les usagers vulnérables dans les milieux de vie.
Merci, Madame Laflac.
Ah, ben oui, toi, c'est étonnant. La sécurité routière, j'embarque. Un message du gouvernement du Québec.
Saviez-vous qu'avec Promutuelle Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Pendant la liquidation totale, prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction avant location 60 mois à partir de seulement $89 plus taxes par semaine sans aucun compte initial. Chez Joliette Nissan.
CFNJ. 40 ans dans Lanaudière. Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1 88.9.
Lanaudière PM, éducation.
C'est la 4e édition de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Ça se déroule jusqu'au 26 octobre sous le thème « La petite enfance entre de bonnes mains ». Avec cette semaine, le gouvernement affirme reconnaître et valoriser l'apport de celles et ceux qui, chaque jour, on vous ça, qui font un travail extraordinaire et accueillent nos enfants. Et moi, je lève mon chapeau à tout ce groupe. François Morin s'est entretenu avec la présidente du syndicat des services de garde CSN dans Lanaudière, Jessie Rouleau.
Jessie Rouleau, c'est la 4e semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Ça se déroule jusqu'au 26 octobre sur le thème « La petite enfance entre bonnes mains ». La ministre Kateri Champagne-Jourdain, ministre responsable de la famille, affirme que le gouvernement souhaite valoriser et reconnaître l'apport précieux de celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent auprès des enfants. Est-ce que, dans les faits, depuis les dernières négociations, ça s'est amélioré?
Non, ça s'est pas amélioré. En tout cas, moi, ma connaissance, ce que je vois, c'est des éducatrices fatiguées, des éducatrices qui ont besoin de soutien beaucoup. Puis, mettons que, avec justement la négociation qui a eu lieu, je lève mon chapeau à toutes les éducatrices qui sont encore dans le réseau puis qui maintiennent le réseau à bout de bras parce que c'est pas facile. Leur tâche est pas diminuée. Puis on vous cachera pas que les gains qu'ils ont eu, c'est pas la hauteur du travail qu'ils ont à faire. Puis je suis contente d'apprendre qu'une ministre qui appelle à la solidarité envers les éducatrices. J'espère qu'ils s'en souviendront pour la prochaine fois.
Est-ce que, compte tenu du contexte, et là, j'enlève rien au travail qui est réalisé par les éducatrices et éducateurs, mais est-ce que les enfants sont véritablement entre bonnes mains?
La petite enfance est entre bonnes mains du sens que, oui, on peut y croire avec les éducatrices de qualité qui sont présentement sur le plancher, mais si on veut qu'on continue à ce que ce soit entre bonnes mains, ben il va falloir renflouer pour pouvoir les aider à maintenir le cap, ces belles éducatrices-là.
Donc, on va quand même profiter de la semaine pour, j'imagine, mener certaines, je dirais pas d'action de visibilité, mais rappeler justement au gouvernement qu'il y a quand même là des obligations à l'endroit de celles et ceux là, qui travaillent auprès des enfants.
Effectivement, on a l'intention de faire des posts sur nos pour mettre vivant nos pages Facebook pour pouvoir souligner le beau travail des éducatrices puis que ça fasse écho aussi un peu partout puis qu'ils se rappellent qu'on est là puis que les éducatrices ben c'est la base de la petite enfance puis c'est la base de l'économie aussi, hein, parce que des éducatrices au travail qui s'occupent des enfants, ben ça fait des parents qui puissent aller travailler puis qui puissent ramener des sous à la maison.
Voilà, c'était Jessie Rouleau qui traçait un portrait relativement sombre de la situation font, écoutez, ils prennent la place des parents. Alors, il faut, on leur confie nos enfants, ces gens-là. Et comme je l'ai mentionné en début d'entrevue, font un excellent travail.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Pierre Paquette, mes hommages, comment allez-vous?
Oui, bonjour, bonjour.
Écoutez, il y a eu un sondage assez déterminant aujourd'hui, qui a frappé fort. On parle des Québécois qui veulent pas d'un troisième référendum.
Oui, mais bon, si on regarde quand même les chiffres, là, c'est quasiment autour de 50 % là, 53 % je pense que c'est tout à fait normal. On en a pas parlé depuis au moins une dizaine d'années. Et c'est sûr que le Parti québécois en parlait, mais avec 2, 3, 4 députés, ça paraissait pas très crédible. Là maintenant, s'ils forment le prochain gouvernement, je pense que c'est là que vraiment le débat va commencer sur la question du prochain référendum. Alors pour le moment, moi je suis pas trop inquiet de ces chiffres-là, surtout quand je les regarde. Je les décortique un peu parce que quand on regarde les positions des Québécois sur certains sujets, je pense qu'avec un débat un peu éclairé sur la question, leur avis serait changerait probablement. Alors, je pense juste par exemple les finances publiques. Alors, est-ce que on serait mieux avec un Québec indépendant pour les finances publiques? 30% disent oui, 55% disent non. Mais ils n'ont pas pris connaissance encore du déficit pharaonique que va avoir le gouvernement fédéral le 2 novembre prochain. Alors, je pense que tout ça va, ou le 4 novembre, je pense plutôt, tout ça peut changer. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon ne doit pas baisser les bras. Là.
Lors du dernier référendum, il y a eu des vedettes là, qui sont venues à la rescousse, je pense à Lucien Bouchard, à Jean Charest. Est-ce qu'il y aura des vedettes qui vont se présenter durant le référendum de Pierre-Paul, du chef du PQ?
Oui, oui. Ben écoutez, on peut pas le savoir, parce que même Lucien Bouchard, là, lorsqu'il est apparu, là, il y avait tout un contexte, hein, on se rappelle, dans ce sens-là, il y aura peut-être un contexte aussi qui permettra à certaines personnes de prendre le leadership de la course. Mais pour le moment, je pense que le chef du Parti québécois est très bien placé. On a aussi les gens de Québec solidaire qui font actuellement une campagne sur l'indépendance. Alors, moi, de voir ces chiffres-là maintenant, quand c'est un petit peu dans l'abstrait, ça m'inquiète pas. Je regardais un autre chiffre, juste pour vous montrer comment le sondage est un peu paradoxal, sur la question des espaces verts, là, l'environnement. Alors, il y en a 37% qui disent que ce serait mieux avec la souveraineté, 46% qui disent non, ça changerait rien. Mais quand on regarde la situation au Canada avec les pipelines qui se discutent, le Canada, c'est un État pétrolier. Alors, je pense que dans le débat qui aura lieu au cours des prochains mois, ben ces choses-là vont ressortir et actuellement, ben évidemment, ils ressortent pas. Donc, c'est pas étonnant que les gens soient, une bonne partie des Québécois, soient un peu indifférents ou inquiets de la suite des choses.
Je l'ai débaptisé tantôt, Paul Saint-Pierre Plamondon. Est-ce qu'il n'y arrivera peut-être pas la même chose qui est arrivée par le passé, où les Québécois qui sont ambivalents par rapport à bien des décisions vont voter pour un bon gouvernement ou pour remplacer la CAQ et une fois que l'option sera présentée, vont la bouder?
Ça, c'est possible, mais c'est pas joué. En 1994, juste avant le référendum, M. Parizeau a été élu parce que les gens en avaient assez du Parti libéral. Mais M. Parizeau n'était pas une personne personnellement très populaire dans la population québécoise. Comme vous l'avez mentionné, bon, Lucien Bouchard est venu, Mario Dumont, et donc ces contributions-là ont permis à l'option souverainiste d'atteindre 49, je ne sais combien pour cent. On a pratiquement gagné à ce moment-là. Alors, je pense que tout ça est possible, mais évidemment, il est trop tôt pour conclure sur la question. Il va falloir d'abord attendre l'élection en octobre prochain.
Comment doivent se sentir les gens du Parti québécois ce matin?
Ben, je pense qu'ils sont réalistes. Ils savent très bien que c'est pas gagné d'avance, mais un débat, ça sert justement à éclairer la population sur les choix qui lui sont offerts. Ben, si on se rappelle, les commissions sur l'avenir du Québec, là, qui ont eu lieu juste avant le référendum de 1995, avaient été une occasion de montrer justement sur des thèmes comme les finances publiques, la santé, l'éducation, l'environnement, que la souveraineté pourrait être un atout. D'ailleurs, le slogan à ce moment-là, c'était « Oui, c'est possible ». Moi, je pense que c'est encore possible, mais évidemment, il ne faut pas prendre rien pour acquis, particulièrement dans le contexte où on n'a pas encore gagné l'élection.
Peut-être le point positif à noter, c'est la ferveur chez les 18-34 ans là, qui en surprend plusieurs.
Oui, ça, c'est nouveau, puis je pense que ça vient justement de la conjoncture actuelle. Il y a beaucoup de jeunes, maintenant, ont l'impression que le Canada les a laissés tomber, mais c'est probablement vrai aussi, là. On est une quantité négligeable dans l'ensemble canadien et que de voler nos propres ailes leur permettrait d'avoir de meilleures opportunités. Alors, c'est des choses comme ça qu'il faudra mettre en évidence, démontrer, évidemment appuyé par des propositions solides. Mais moi, je pense que c'est toujours possible d'espérer gagner un prochain référendum.
Et si on fait appel à vous, Pierre Paquette, serez-vous de l'équipe du oui?
Moi, je suis toujours ouvert, mais je ne veux jamais m'imposer. Comme j'ai toujours dit quand j'ai travaillé à CSN au Bloc québécois, tout le monde est utile, mais personne n'est indispensable.
Merci beaucoup, Pierre Paquette.
C'est moi qui vous remercie, mon cher.
Lanaudière PM. Santé.
Monsieur Morneau, est-ce que vous avez à ce stade-ci confirmation de la fin du recours aux agences privées dans Lanaudière?
Ben, je sais que ça fait partie de la deuxième étape au niveau du plan Dubé qui voulait mettre fin au recours aux agences. Nous, dans la région de Lanaudière, ça prenait fin aujourd'hui, mais j'ai pas eu la confirmation officielle que l'employeur a mis fin et a coupé ça partout, quoi qu'on avait vu une diminution du recours aux agences depuis quelques mois. Là.
Est-ce que il y en avait encore beaucoup?
Dur à confirmer pour le moment, j'ai pas cette donnée-là, là.
OK. Donc, c'était pas nécessairement terminé, mais là, c'est comme la deuxième phase. Donc, on devrait évidemment ne plus recourir à du personnel des agences de placement. C'est bien ça?
Oui.
Et ça signifie quoi, au juste, au niveau du plan? Avez-vous une idée? Vous avez des coûts que ça a engendré, ce recours-là?
Mettre fin aux agences ou prendre des agences?
Ben, prendre des agences, ça coûtait combien dans la
Nodière? Ça coûtait des millions et des millions par année, juste mettons pour le site de la Nodière. On avait énormément d'agences dans nos secteurs, surtout dans le secteur nord, mais on avait aussi dans le secteur sud, on avait des secteurs qui étaient en grande pénurie, surtout les CHSLD qui sont plus éloignés, qui fait en sorte que le recrutement de personnel était plus difficile. Mais je sais qu'au Nord, donc au CHDL à Joliette, le recours aux agences, c'était quand même assez important, même qu'au Sud aussi. Là.
Donc, la FIC craint que la fin du recours aux agences ait des conséquences sur le personnel directement.
Mais c'est sûr que la fin du recours aux agences, ça n'apporte pas automatiquement une main-d'œuvre supplémentaire pour nous, les employés sur le département, parce que les agences étaient déjà en place. Par contre, oui, effectivement, je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui se sont fait embaucher, mais ils faisaient des quarts de travail chez nous. Fait que ça ne donne pas des gens de plus pour nous donner un coup de main. Fait que la pénurie que l'on vit quand même en ce moment, puis le manque de personnel, ben même mettre la fin au recours des agences, ça n'a pas rien stabilisé. Ça se peut qu'il y en ait eu travailler dans des secteurs privés puis qui ont décidé de rejoindre les rangs du public. Dans ce cas-là, oui, ça donne un petit coup de main, mais c'est pas un effet de masse qu'on a eu là.
Vous attendez donc à une surcharge de travail pour les infirmières?
Ce qui arrive présentement, en plus, avec les compressions budgétaires que Santé Québec a ordonné de couper des millions, surtout que nous, avec le PDG, qui a ordonné aussi des coupures au niveau du site de la Nodière, mais ça fait qu'on voit beaucoup de non-remplacements. Fait que sur une unité, je donne un exemple, s'ils se font supposer d'être 10 infirmières, bien, s'il y en a deux de malades, bien, ils ne les remplacent pas. Ce qui crée une surcharge de travail pour les employés qui sont en place, parce qu'au lieu, mettons, d'avoir 15 patients chaque, ils vont se ramasser à 18 ou 20 patients chaque.
c'est un exemple que je vous donne juste pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir avec le non-remplacement. Fait que les filles deviennent en surcharge de travail à cause de cette situation-là, à cause des coupures et du manque de personnel puis du non-remplacement.
Êtes-vous tenu au courant par la direction du CIS sur le processus là, d'élimination?
Le processus de?
D'élimination du recours finalement aux agences privées.
Mais je sais que dans le secteur sud, ça faisait déjà un petit bout qu'il avait cessé le recours aux agences parce qu'eux autres faisaient partie de la section montréalaise. La Nodière, on fait partie de cette deuxième phase-là qui fait que là, ça vient toucher le nord de la Nodière, donc Joliette, Saint-Michel-des-Saints et tout ce qui est vraiment dans le secteur nord. C'est là que ça va venir toucher. Mais j'ai pas le plan, puis je peux pas vous dire c'est quoi, qu'est-ce qu'il a mis en place. Mais qu'est-ce qu'on voyait avant? Quand c'est arrivé, ben il y a un plan, mais son plan, c'est de faire du non-remplacement.
Et oui, ils sont pas tenus de vous informer sur ce qui va se passer.
On peut nous tenir informés, mais ils l'ont pas fait encore d'emblée tout de suite, là.
OK, donc ça commence aujourd'hui, mais c'est une transition qui pourrait prendre encore quelques semaines.
Oui, oui. Ben, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Est-ce que il y a certains endroits, je sais, qui ont demandé des délais supplémentaires parce que la pénurie était plus importante. Est-ce que ça va être notre cas ici? Je souhaite que non. J'espère que nos embauches vont bien. Mais après ça, qu'est-ce qui va être important, c'est de faire du bon recrutement, mais aussi de faire une très bonne rétention du personnel. Une fois engagés, il faut les garder avec nous. Il faut qu'ils soient heureux au CIS de la Nodière. Il faut qu'ils disent, c'est plaisant, j'aime ça aller travailler là, puis je vais rester là. Parce que c'est bien beau embaucher, mais si les gens restent seulement quelques mois, puis ils n'aiment pas ça, ils quittent pour un autre réseau, on n'est pas plus avancé. Fait que c'est de là que l'attraction et la rétention devient très importante.
Vous aurez compris qu'on parlait des centres hospitaliers de 5 régions du Québec qui ont mis fin aujourd'hui au recours aux agences privées de placement de personnel. Ça a sauvé quand même pas mal d'argent, cette histoire-là, au gouvernement. On craint cependant une surcharge de travail pour les infirmières. C'est ce qu'on verra là dans l'application, comment ça va se dérouler. J'aimerais rapidement, pas très longtemps, vous parler d'une nouvelle qui m'a fait sursauter ce matin, le Sénat. Ce fameux Sénat qui sert finalement à pas grand-chose, de l'avis de Claude Fournel, souvent. Et je suis un peu d'accord avec lui, d'ailleurs. Et le Sénat a de plus en plus d'argent public à flamber. Et ce, même si sa réputation continue d'être entachée par des dépenses abusives. Les frais, là, tenez-vous bien, ont grimpé de près de 40 % depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Le Sénat, tenez-vous bien, a dépensé 135 millions de dollars pour l'année 2024-2025, alors qu'il fonctionnait avec moins de 85 millions. Ça, c'est 50 millions de plus qu'en 2014-2015. Vous vous imaginez? Ça fait beaucoup d'argent, ça. Et c'est souvent les conjoints des sénateurs ou des sénatrices qui font doubler les factures, les épouses qui coûtent plus cher que le sénateur, finalement, quand il voyage avec son conjoint ou sa conjointe. C'est un peu fâchant pour monsieur, madame, tout le monde qui a de la misère à arriver et qui voit ça, puis l'argent de ses taxes s'en va dans les poches des familles de sénateurs. C'est un peu indécent, disons-le. Je pense que c'est le vrai mot. On va remercier les gens qui ont participé à notre émission. Pierre Paquette, que vous venez d'entendre. Nicolas Framerie, le directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC Joliette. On avait également Cassandra Martel. Elle est toujours la directrice générale du Conseil régional de l'environnement d'Anaudière. Jean-François Champoux, il est le directeur général de la Syrie Saint-Michel. Jesse Rouleau, président du syndicat des services de garde CSN d'Anaudière. Patrice Morneau, le vice-président de la FIC. On remercie François Morin, Pierre Jubinville. J'aimerais souhaiter un prompt rétablissement à Claude Fournel. Je vous retrouve demain. On va lui donner le temps de se reposer comme il faut, notre ami Claude, et surtout essayer de tranquilliser son chat qui le martyrise et qui boit tous ses verres d'eau. Alors voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain. Ici Michel Arnois qui vous dit bonne soirée.